Chapitre 19. Où est Souria? Carole, la maquilleuse, et Laura, la script, baissaient la tête comme des gamines prises en faute. Le dernier groupe était arrivé une poignée de minutes plus tôt. Le 4x4 avait transporté une bonne partie des rescapés et des vivres avant d'épuiser ses réserves d'essence. Le dernier groupe, qui avait gardé les caisses dans l'hypermarché sous la responsabilité de Franks, avait dû parcourir à pied le chemin entre le centre commercial et le bourg de Buc. Les 7 hommes et les 2 femmes n'avaient pas éprouvé de difficulté à s'orienter grâce aux repères disséminés par le soldat Martins au cours de ses différents allers-retours. Mais la brume de cendres était par endroits si épaisse qu'ils s'étaient perdus de vue et qu'il leur avait fallu donner de la voix pour se regrouper. Ils avaient parcouru les 11 kilomètres du trajet en un peu plus de 5 heures, marchant sur un sol gelé et glissant, luttant contre un froid coupant et un vent violent. Aux cendres s'associaient par instants des flocons d'une neige dure et cinglante. Ils étaient passés au-dessus de 2 corps parfaitement conservés dans une épaisse couche de glace. Un homme et une femme surpris par le froid, serrés l'un contre l'autre, élégamment vêtus, comme s'ils s'apprêtaient à sortir ou revenaient d'une soirée. Le rayon de la lampe de Franks était resté un moment braqué sur les corps, avant d'éclairer plus loin le chiffon coloré attaché par Martins à un ancien poteau électrique. Les nerfs à fleur de peau, Franks retira ses lunettes et le foulard qui lui protégeait le bas du visage. Un pressentiment l'avait accompagné tout au long du chemin, il avait à plusieurs reprises demandé aux autres d'accélérer l'allure, mais la progression s'était révélée lente, exténuante. Des familles se reconstituaient avec des cris de joie dans l'entrée de la champignonnière.
« Elle est où, merde ?»
Carole releva la tête et le fixa d'un air tragique.
« C'est Charline ?»«
Quoi, Charline ?»
Elle disait qu'on devait se débarrasser de Souria, qu'elle nous porterait malheur.
« Qu'est-ce que vous en avez fait ?»
Comme on voulait pas la tuer, on l'a emmenée dans une des galeries de la champignonnière.
Ça fait combien de temps?
Les 2 femmes se consultèrent du regard.
Je sais pas au juste,
finit par répondre Laura.
Un jour, peut-être plus.
Vous avez pensé au rat?
À peine avait-il posé cette question qu'une image lui traversa l'esprit.
Des rats, des milliers de rats, grouillant dans l'obscurité autour d'une forme inerte.
Il tira le pistolet que lui avait remis Dalbar et déverrouilla le cran de sûreté.
« Conduisez-moi dans cette galerie !»
Les 2 femmes jetèrent des coups d'œil furtifs vers le cœur de la champignonnière. La nouvelle que d'autres survivants allaient se joindre à leur petit groupe avait à la fois réjoui et inquiété l'équipe de tournage.
« Charline a convaincu tout le monde que... »« Faites chier avec Charline! Si jamais il est arrivé quelque chose à Souria, je vous jure qu'elle le paiera. Conduisez-moi tout de suite à l'endroit où vous l'avez laissé. M'obligez pas à utiliser ce flingue. »
À la lueur de sa lampe torche, Carole et Laura l'entraînèrent dans le labyrinthe. Ils traversèrent la cave principale, où les membres de l'équipe avaient installé les box, les matelas, les toilettes sommaires et un coin abusivement baptisé cuisine. Franks reconnut, au milieu d'un groupe, Charline et Dalbar enlacés, éclairés par les lumières tremblotantes des bougies. Considérant l'ancien sergent comme le nouvel homme fort du groupe, elle avait aussitôt misé sur lui. La vitesse à laquelle elle l'expulsait de sa vie avait quelque chose de dérisoire, d'humiliant. Il lui fallait renoncer au plaisir brûlant qu'il avait goûté avec elle et qui lui avait révélé des aspects inconnus et grisants de sa virilité. Impression désespérante d'être chassé de l'Olympe et condamné à retomber parmi les hommes. D'avoir connu un instant de grâce et d'avoir aussitôt été rattrapé par la malédiction. Il lui fallait sortir de l'enchantement. Ce même envoûtement qui avait poussé 2 femmes saines de corps et d'esprit à perdre une fillette de 5 ou 6 ans dans un dédale ténébreux et infesté de rats. Incapables de reconnaître les lieux, elles explorèrent plusieurs galeries avant de revenir sur leurs pas. Curieusement, les rats semblaient avoir déserté la champignonnière. Ils continuaient pourtant de grouiller dans l'esprit de Franks. Un crissement continu résonnait de manière désagréable sous son crâne. Il ne discernait toujours pas la forme immobile au milieu de la vague grise et frissonnante. Son impatience et son inquiétude s'exaspéraient. Son index se crispait sur la détente du pistolet. Oublié déjà, la fatigue et les craquelures du bas de sa botte par lesquelles le froid s'était engouffré et lui avait engourdi le pied. Même s'il ne voyait rien, il sut qu'il était dans la bonne galerie avant même d'en avoir franchi l'entrée. Il se sentit aspiré, comme tiré par un fil. Dépassant les 2 femmes qui marchaient devant lui, il fonça vers le fond du boyau, parcourut environ 300 mètres avant de tomber sur les premiers rats, s'immobilisa, haletant, et promena la lumière de sa lampe sur les rongeurs. Le rayon faiblissant s'avéra trop court pour s'étirer jusqu'au centre de leur cercle. Combien étaient-ils? Des milliers?
des dizaines de milliers. Comment pouvaient-ils survivre? En se dévorant les uns les autres? Ils ne lui prêtaient aucune attention. Tous tournaient dans la même direction. Ils ne semblaient pas agressifs, malgré la famine qui leur creusait les côtes et ternissait leurs poils. Quelle horreur! Les deux femmes étaient arrivées derrière Franks. Elles ouvraient des yeux effarés sur la multitude grisâtre qui occupait toute la largeur de la galerie. Si les rongeurs décidaient de déferler sur les rescapés réfugiés dans la champignonnière, il ne leur faudrait pas plus de quelques minutes pour les réduire en squelettes. Franks leva le bras pour donner davantage de longueur aux rayons de sa lampe. La lumière glissa sur les échines hérissées pour s'échouer sur une forme immobile, émergeant de la nuée frémissante comme un rocher au milieu des flots agités. Il crut discerner la silhouette menue et familière. « Soria !» Elle ne bougea pas. Les pensées s'entrechoquaient dans l'esprit de Franks. Il lui paraissait impossible que les rats l'eussent épargnée. Elle était sans doute trop faible pour venir jusqu'à lui, il devait donc traverser le pullulement pour aller la chercher. La peur gonfla en lui, lui obstruant la gorge. « Elle est vivante !» murmura-t-il. « Il faut que j'aille la chercher. »« Vous êtes fou !» gémit Carole. « Ils vont vous !» Ils ne l'ont pas mangé, elle. Les picots de la crosse du pistolet lui irritaient la paume. Il avança d'un pas, pour se reculer aussitôt quand les premiers rongeurs dérangés se retournèrent vers lui en montrant les dents, faillit presser la détente de son arme, calma d'une profonde inspiration les battements de son cœur, remit sa torche à Laura en lui ordonnant de l'éclairer, et s'encouragea de la voix et du geste avant de fendre la multitude. Il jugulait à chaque pas sa panique galopante pour ne pas rebrousser chemin. Les rats s'écartaient devant ses pieds, creusant un sillon qui se refermait aussitôt derrière lui. La traversée lui parut interminable. Il marchait précautionneusement, craignant d'écraser par mégarde une queue, un museau, une patte, et de déclencher une réaction massive qui ne lui laisserait aucune chance. La tension était telle qu'il transpirait sous ses nombreuses couches de vêtements. La lumière de la lampe brandie par Carole faiblissait. Il pénétrait désormais dans une zone ténébreuse, silencieuse, avec, en point de mire, la silhouette de Soria légèrement plus claire, toujours immobile. Il se demanda un instant si elle n'était pas morte, eut aussitôt la vision de ses grands yeux noirs et pétris de vie, accéléra l'allure. Les rats s'écartaient une fraction de seconde avant que son pied ne se pose sur la terre battue. L'odeur était indéfinissable, un mélange de musc, de déjection, de moisissure. La fillette le regardait en souriant, visiblement heureuse de le revoir. Des larmes jaillirent des yeux de Franks. Son bonheur de la retrouver saine et sauve balayait ses remords et ses inquiétudes. Il avait l'impression de recouvrer une partie de lui-même, d'être à nouveau rassemblé, entier. Elle avait encore maigri. Son visage s'était creusé, des cernes profonds soulignaient ses yeux. Elle se tenait au milieu d'un cercle d'environ 2 mètres de diamètre, dont les rats ne franchissaient pas la circonférence. Arrivé près d'elle, il glissa le pistolet dans la poche de son manteau, s'agenouilla et la prit dans ses bras en balbutiant. « Pardon, pardon, je te laisserai plus, je te le promets. » Il la serra un long moment contre lui sans chercher à retenir ses larmes, puis il se releva en la maintenant plaquée contre sa poitrine. Elle posa la tête sur son épaule et s'endormit immédiatement. Il craignit la réaction des rats, mais ils s'écartèrent sur son passage et le laissèrent rejoindre les deux femmes sans manifester la moindre agressivité. « Fichons le camp d'ici !» souffla Carole. « J'ai eu assez peur comme ça pour aujourd'hui. »« Qu'est-ce qui se passe avec ces sales bestioles ?» demanda Laura. Elle désigna Soria d'un mouvement de menton. « Comment ça se fait qu'elles se sont groupées autour d'elle et qu'elles l'ont pas... Enfin, j'en sais rien, » répondit Franks. « Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est pas tout à fait comme nous. Charline a prétendu qu'elle n'était pas votre fille, c'est vrai ? Je l'ai récupérée dans un train de banlieue. Sa mère me l'a confiée avant de mourir. » Ils se dirigèrent vers la sortie de la galerie, abandonnant la multitude grouillante derrière eux. « Elle a dû être un sacré boulet pour vous. J'ai parfois l'impression que c'est moi le boulet pour elle. Et je sais pas ce qui se serait passé pour vous tous si elle avait pas gardé les rats près d'elle. Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Franks caressa délicatement les cheveux noirs et ondulés de la fillette. « Simplement qu'elle vous a sans doute sauvé la vie. » Il avait décidé de repartir. Il lui semblait que Soria l'y encourageait. Il n'avait plus rien à faire dans la champignonnière. Il leur fallait maintenant s'arracher du confort relatif des galeries et marcher vers le sud, vers le feu de Dieu. Là-bas, ils avaient survécu. C'était désormais une certitude. Et ils avaient besoin de lui. La famille devait être reconstituée. L'atome, avec son noyau et ses électrons. La seule force qui leur permettrait à tous de franchir le long tunnel des années noires. Le groupe réfugié dans les entrailles de Buck manquait de cohésion. Il se désagrégerait rapidement, car ses membres ne tiraient pas dans la même direction. Des électrons perdant de leur cohérence et détricotant la matière. Franks n'était pas certain qu'il parvienne au terme des 3 mois assurés par les réserves de vivres et d'énergie. Charline Siboney s'affichait sans aucune pudeur avec le sergent Dalbar, flatté, comme il l'avait été lui-même quelques jours plus tôt, d'entrer dans le cercle des hommes conviés à partager l'intimité de l'ancienne gloire. Franks ne ressentait plus d'aigreur, se demandant désormais comment il avait pu se laisser charmer par cette femme qui sacrifiait sans pitié ses amants dès qu'il cessait de lui être utile. L'illusion de sa beauté s'était estompée. Elle portait sur son visage les tourments de son âme. Elle avait blêmi lorsque, de retour avec les deux femmes du labyrinthe, il lui avait présenté Souria. « Si je l'avais retrouvée morte, je t'aurais tué. »« C'est qu'une grosse débile, » avait bredouillé Charline. « Je pensais qu'elle était une bouche inutile, c'est toi qui m'as dit que seuls survivraient ceux qui se fermeraient aux émotions inutiles, non ?»« Tu ne sais pas à quel point Souria est une émotion utile. Ne t'avise surtout pas de la toucher à nouveau. »« Tu n'as aucun ordre à me donner. Ce n'est pas un ordre, Charline Siboney, mais un avertissement. Un dernier avertissement. » Charline avait sollicité du regard l'appui de Dalbar. L'ancien sergent, embarrassé, avait gardé les yeux rivés au sol. L'arrivée des nouveaux rescapés avait entraîné une réorganisation dans la champignonnière. À l'unanimité, on avait confié la responsabilité du groupe à Dalbar et à Martins. Les deux soldats avaient aussitôt imposé une discipline calquée sur le modèle militaire, rationnement, répartition de l'espace, des veilles et des tâches. Franks avait confié au sergent sa décision de partir. Dalbar l'avait dévisagé un long moment, les sourcils froncés, le front plissé. « T'es dingue !» avait marmonné l'officier. « T'as aucune chance dehors. Charline m'a dit ce qui s'était passé entre vous. Et crois-moi, je m'en cogne. Je lui ai demandé de foutre la paix à ta gosse. Si elle est la cause de ton départ, laisse-moi te dire que c'est complètement... Il s'agit pas de ça. Je dois rentrer chez moi. On m'attend là-bas. » Tu comptes faire plus de 400 bornes à pied dans un environnement hostile sans savoir si les tiens ont survécu? Je suis pas sûr que le Jean vaille la chandelle. Je tente la chance. T'es maître de ta vie. Si tu veux laisser la gosse, pas de problème. Je te donne ma parole que personne touchera un seul de ses cheveux. Je l'emmène avec moi. Comme tu veux. Garde mon pistolet et les deux chargeurs, et on te donnera autant de réserves que tu pourras emporter. Merci pour tout. Me remercie pas. Sans ton aide et celle de Boris, on n'aurait pas pu prendre ce supermarché. C'est un juste retour des choses. Franks colla des bandes de caoutchouc sur les coupures de ses bottes, puis il monta, en compagnie de Dalbar et de l'homme qui occupait la fonction d'intendant, dans la cour intérieure qui abritait l'entrée de la champignonnière et servait de congélateur. Il ouvrit des caisses, bourra son sac à dos de barres de céréales, de fruits secs, de chocolat, de morceaux de sucre, ne prenant que 4 bouteilles d'eau pour éviter de s'alourdir, espérant trouver de quoi étancher leur soif au long du chemin. Une fois résolu le problème du ravitaillement, il enduisit le pistolet et le vieux fusil de chasse d'une épaisse couche de la graisse spéciale que lui fournit Martins, ravauda soigneusement ses vêtements et sous-vêtements, ainsi que ceux de Souria, vérifia l'étanchéité des lunettes de natation, s'équipa de 3 lampes de poche, des ampoules et des piles correspondantes malgré l'opposition d'une partie des rescapés, probablement manipulée par Charline. Dalbar leur ordonna de se taire et dénonça leur ingratitude avec des mots durs. Puis, avant de prendre une dernière nuit de repos dans la champignonnière, il étudia avec l'ancien officier une carte détaillée de la région de l'Île-de-France. « Tu pourrais couper directement, mais je suis pas sûr que tu gagnerais du temps. Le mieux, je pense, est de récupérer la Nationale 20 et de la suivre jusqu'à Orléans. »« Comment me repérer ?» demanda Franks. « Pas facile. » On voit plus les étoiles et ces satanées boussoles refusent de fonctionner. La perturbation de l'activité magnétique. Souria dormait un peu plus loin. Son visage avait presque recouvré son aspect rond et lisse. Elle avait dévoré de bel appétit le plat que Laura et Carole, repentantes, lui avaient préparé. Les rats n'avaient plus donné signe de vie. Franks se demandait s'ils avaient quitté la champignonnière ou s'ils guettaient l'horreur dans la pénombre des galeries. Le piège, en tout cas, n'en avait plus capturé depuis plus de 2 jours. condamnant Max au chômage technique. L'ancien cadreur stagiaire en avait dépecé une quarantaine depuis sa prise de fonction. Il avait décidé de tanner les peaux pour en faire une cape, qui, selon lui, vaudrait les meilleures doudounes pour affronter le froid extérieur. Il allait sans cesse jeter un œil sur la cage installée à l'entrée d'une galerie annexe et en revenait plus nerveux et irritable qu'un fumeur sevré brutalement de nicotine. « Essaie de te fier au panneau routier, » reprit Dalbar. « À condition que quelques-uns soient restés debout et tournés dans la bonne direction. Faut aussi compter sur la chance. » L'ancien officier braqua le rayon de sa lampe sur la carte et l'étudia un petit moment avec attention. « Tes points de repère. Jouy-en-Josas, Bièvre, Saclay, Palaiso, Villebon-sur-Yvette, Longjumeau. Une fois à Longjumeau, t'auras récupéré la Nationale 20. Ensuite, tu dois passer par Montlhéry, Arpajon, Saint-Sulpice-de-Favière, Étréchy, Étampes, Angerville, Toury, Artenay, Chevilly, Orléans. À partir de là, tu suis la direction de Vierzon et de Châteauroux. Enfin, si t'arrives jusque-là. T'as pas l'air d'y croire. » Le halo de la lampe tirait de l'obscurité les visages graves de Dalbar, de Martins et de Boris. Ils s'étaient battus côte à côte. Ils étaient à jamais frères d'armes. Les chances étaient pas fameuses de revenir vivant d'Afghanistan et d'Afrique. Là, je dirais qu'elles sont nulles. Mais t'es libre. Je peux pas et veux pas t'empêcher de partir. T'es sûr de toi ? Demanda Boris. Sûr et certain, répondit Franz. Tu pourrais peut-être attendre que les choses se tassent un peu, intervint Martins en frottant ses joues ombrées de barbe. Elles sont pas prêtes de se tasser, à mon avis. Vous avez gagné un sursis, mais vous devrez bientôt vous mettre en quête d'une autre nourriture. Dalbar hocha la tête. Dans 2 jours, on enverra une première patrouille en repérage. On fera en sorte d'avoir en permanence 3 ou 4 mois d'avance. Sage décision. Faites attention aux rats. Je sais pas ce qui mijote cela, mais leur disparition me paraît anormale. Il salua les 3 hommes avec une émotion contenue et se coucha près de Souria. Il s'endormit presque aussitôt. Lorsqu'il rouvrit l'œil, les aiguilles phosphorescentes du vieux réveil confié par l'ancien perchman marquaient 4h15. Souria, assise à ses côtés, le fixait avec son insistance et sa gravité coutumière. Une tache claire flottait à quelques mètres dans la pénombre. Le visage et la chevelure de Charline Siboni, peut-être. Il baignait dans un grand calme. Il vit, ou crut voir, un moutonnement gris coupé en son milieu par un fleuve de lave rutilante. Un jalon sur le chemin du feu de Dieu, sans doute.